secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Alexis Thibault, bonjour.
Bonjour.
Pour le magazine Numéro, vous avez réalisé une enquête consacrée aux produits dérivés dans le milieu du rock et de la pop, ce qu'on appelle aussi le merchandising, dont on va voir qu'il rapporte désormais plus que la musique finalement elle-même. Alors déjà, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que ce concept de merchandising, il date d'un moment déjà, il date des années 50.
Oui exactement, il date de 1955 pour être précis. À l'époque, c'est un fan anonyme de Elvis Presley, qui a eu l'idée d'imaginer un petit t-shirt à l'effigie du King. Et en fait, ça a été vite récupéré par le merchandising parce que et par des gens plus haut placés, notamment un monsieur qui s'appelle Henry Saperstein, qui a eu l'idée de développer des produits dérivés. Lui, il travaillait déjà dans le milieu du cinéma et s'est dit, on va peut-être faire ça avec la musique. Et donc, il est allé voir l'impresario de Elvis Presley, qui s'appelait Tom Parker. Et ils ont monté un deal ensemble et Elvis récupérait 45% des
produits dérivés.
Exactement. Ouais. Et en fait, 6 mois plus tard, ils avaient déjà engrangé 22 millions de dollars.
Alors ça, c'est le démarrage et puis l'idée va faire école, va se développer. Il y a deux hommes, notamment un promoteur, Billy Graham, et un homme d'affaires, Del Furano, qui eux vont fonder une société et qui vont industrialiser, on va dire, le processus.
Exactement, ils étaient en train de dîner et en fait, ils se sont dit, vu que ça fonctionne très bien, pourquoi ne pas envisager quelque chose de plus grand encore en installant des stands de merchandising directement dans les salles de concert. Comme ça, les gens qui arrivent ont envie de revendiquer leur appartenance à une certaine communauté, un peu comme un supporter dans un stade de football. Et les gens qui sortent de concert, dans l'euphorie du moment, vont acheter. Et ça a très bien fonctionné parce qu'ils avaient un gros réseau. Ils étaient proches de groupes comme Led Zepp ou des Who. Et en fait, ça a cartonné puisque ACDC, quelques années plus tard, s'est rendu compte qu'ils avaient engrangé davantage d'argent grâce au merchandising que à la vente de billets.
Et ça, c'est un phénomène qui va s'amplifier et se poursuivre. C'est-à-dire que aujourd'hui, les produits dérivés, les revenus des produits dérivés sont supérieurs aux revenus des albums.
Alors, ça dépend des artistes. Pour les artistes les plus puissants, comme je pense.
Oui, quand vous avez une image que vous pouvez effectivement
exactement
convertir en produit.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est avec les artistes émergents, parce qu'en fait, le merchandising leur permet d'avoir une source de revenus tout au long de l'année. C'est-à-dire hors des calendriers promotionnels et hors des dates de tournée. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas sorti d'album, ça ne vous empêche pas d'acheter un t-shirt à son effigie. Et donc ça, les labels l'ont bien compris.
Encore faut-il que l'image soit assez puissante.
L'image, il faut qu'elle soit puissante, il faut que le logo soit fort. On prend les logos des groupes de rock, c'est des logos qui sont très facilement identifiables, donc c'est pour ça qu'on peut les acheter, parce que les gens reconnaissent immédiatement les t-shirts à l'effigie de Metallica, par exemple, ou de Bob Marley. Mm-hmm. Et en termes d'image, il y a aussi des artistes qui sont pas forcément des artistes très puissants, mais qui sont des artistes très niches. Mais le fait d'arborer quelque chose à leur effigie permet aussi de se façonner une identité. Si je vous prends un exemple, une artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une artiste expérimentale qui s'appelle Arca, arborer un t-shirt à l'effigie d'Arca, c'est aussi se présenter comme quelqu'un qui écoute une musique niche. Alors que arborer un t-shirt à l'effigie de Francis Cabrel, ça nous met tout de suite dans une image beaucoup plus humoristique.
Est-ce que c'est un peu aussi l'effet tatouage, c'est-à-dire se donner une identité?
Exactement. Et c'est aussi, ça permet, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a un t-shirt à l'effigie de Bob Marley, on a tout de suite une image de cette personne. On se dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui aime le reggae, c'est quelqu'un qui a l'air sympathique, ce qui n'est pas forcément le cas.
Alors, vous parlez de Bob Marley, justement, les t-shirts les plus vendus aujourd'hui, c'est ce qu'on lit dans votre enquête, sont à l'effigie de Bob Marley, de Nirvana, Metallica, les Red Hot Chili.
Exactement, et en fait...
Qui sont des groupes autour desquels tournent des légendes aussi.
Alors, non seulement tournent des légendes, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les séries télévisées ont énormément démocratisé certains groupes, et la génération Z les découvre peut-être tardivement. C'était le cas de Kate Bush, qui a été remise sur le devant de la scène grâce à la série Stranger Things, et c'est une chose qui est bien aussi, parce que parfois, certaines personnes disent « Ah oui, mais tu arbores un t-shirt alors que tu connais même pas la chanteuse, t'étais même pas née », et alors, c'est pas très grave.
Alors, ça rapporte énormément aujourd'hui. Le Guardian cite un chiffre, 3,5 milliards de recettes en 2022 de produits dérivés avec des stars dont on parle d'ailleurs à l'occasion de la campagne américaine. Taylor Swift qui fait partie de celles qui vend le plus devant Harry Styles.
Exactement.
Américaine, un anglais.
C'est ça. Et il faut savoir que selon une étude, sur 75 000 concerts enregistrés, une personne sur 5 passait au stand de merch, ce qui est colossal.
Merch, c'est merchandising.
Le merchandising, exactement. Et il y a de plus en plus de grandes enseignes comme H&M, Pull&Bear, Zara, qui ont développé à leur tour des t-shirts à l'effigie d'artistes, mais aussi la mode, c'est-à-dire les grandes maisons de luxe qui ont développé ça. Il y a par exemple Balenciaga qui a sorti un t-shirt à l'effigie de Rammstein, ou Saint Laurent qui a sorti un t-shirt à l'effigie de Nirvana, qui était vendu à 3500 euros.
Ouais, alors justement, quand j'ai lu ça, 3500 euros pour un t-shirt de Kurt Cobain, qui achète ça ?
Qui achète ça, des stars comme Jennifer Lopez, Hailey Bieber.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce t-shirt ?
C'est un t-shirt Saint Laurent, davantage que un t-shirt Kurt Cobain, je pense. Ouais. il n'a rien de particulier, sinon imposer un statement.
D'ailleurs, c'est une tendance à laquelle on assiste, finalement. Chacun y va de sa création un peu personnelle. Bon, Saint-Laurent, c'est une extrême. Mais vous citez la chanteuse Pomme, par exemple, qui crée elle-même des vestes inspirées d'un bleu de travail en édition limitée. Donc ça aussi, c'est des produits dérivés, mais qui sont plus personnalisés.
Exactement, parce qu'en fait, l'objet le plus vendu, c'est un t-shirt noir ou blanc ou une casquette. Mais il a fallu aussi que les artistes se différencient du reste avec des choses peut-être plus insolites. Pomme, elle est très proche de certaines maisons, mais elle est surtout très impliquée dans la cause de l'écologie, du développement durable. Donc, elle a proposé des bleus de travail recyclés, parce qu'il y a une dimension écologique qui est très importante pour les artistes, notamment parce qu'aujourd'hui, sortir un objet de merchandising, il faut qu'il soit vert, il faut qu'il soit pas trop cher, parce que sinon...
Il faut qu'il soit bio,
parce que sinon, les gens vont vous tomber dessus très vite sur Twitter. Vous vendez un sweat à 80 euros qui a été imaginé au Bangladesh, c'est pas très green, quoi.
Donc, faut que ça rapporte beaucoup, mais en même temps, faut que ce soit éthiquement supportable.
Exactement, ou alors, il faut que ce soit tellement insolite que ça... suscite le
c'est en même temps faut que c'est du business.
Exactement.
Faut que ça rapporte énormément et en même temps il faut que ça corresponde à des critères écologiques, éthiques
aussi, surtout parce que certains artistes développent par la suite leur propre marque. C'est le cas de Orelsan qui est parti du merchandising pour créer sa marque Avenir. C'est le cas du label de hip-hop de rap français Don Dada qui a développé la marque Don Dada Athletics, qui est l'une de celles qui marche le mieux en France. Et c'est le cas d'artistes outre-Atlantique comme Erykah Badu.
Mais ça veut dire qu'on est sorti du système du t-shirt à 10 euros pour rentrer dans un système en fait de plus de niches et beaucoup plus cher.
Beaucoup plus cher. La moyenne des prix est autour de 40-50 euros sur les stands de merchandising. Et en fait, il y a certains départements qui ont été créés spécialement dans les labels pour s'occuper de ça. Et en fait, il s'avère que si vous vendez quelque chose de trop cher, il faut que vous soyez une superstar.
Et puis il y a des initiatives complètement farfelues, on va d'ailleurs terminer avec ça. La chanteuse de Soul, Erykah Badu par exemple, vend des bâtons d'encens qui soi-disant diffusent l'odeur de ses parties intimes. Ça vaut 50$ la boîte de 20 bâtons, donc c'est pas rien, et c'est parti en une vingtaine de minutes.
C'est parti d'une vingtaine de minutes, elles vendent pas que ça, elles vendent aussi des suites, des...
Ça, c'est du délire.
Mais ça, c'est assez délirant, mais c'est assez drôle, et c'est en fait, ça a fonctionné parce que ça correspond vraiment au personnage, Erykah Badu. Erykah Badu, non seulement c'est une incroyable artiste, mais en plus, c'est un véritable personnage qui met de l'encens sur scène avant de chanter. Et il y avait des gens qui disaient que son vagin était irrésistible à n'importe quel homme, donc elle a voulu jouer de ça, et ça a fonctionné visiblement.
Il y a Miley Cyrus aussi, la chanteuse américaine, qui, elle, propose des préservatifs en produits dérivés.
Exactement, des préservatifs en produits dérivés. Et en fait, ce côté insolite est quelque chose de très important pour les artistes, notamment en France aussi, où Gaspard Roger, le membre de Justice, vendait des cymbales avec ses albums, ou Mid, l'artiste électronique, vendait des serviettes de plage. Donc on a un rapport entre l'objet de merchandising et les personnages publics des artistes.
Bon, on va continuer quand même d'aller au concert, sans forcément acheter d'ailleurs, simplement pour aller écouter la musique. Merci Alexis Thibault, et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je précise que votre enquête sur les dessous délirants, vous voyez, c'est même pas moi qui le dis, j'avais oublié votre titre, mais les dessous délirants du merchandising, je vous cite, et donc à lire en accès libre, ça se trouve sur numero.com.
Exactement.